Bonjour à tous. Dans le cadre de CIBL reçoit Entêté d'avenir, ici Guylaine Leroux à la barre de cette toute nouvelle émission, une collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste. Entêté d'avenir, c'est votre rendez-vous les quatrièmes mercredis du mois. Au menu de cette première émission, une entrevue avec Maxime Laporte, président actuel de la Société Saint-Jean-Baptiste. Bonjour Maxime.
Bonjour Guylaine.
Un segment d'actualité en lien avec l'histoire que Jean-François Nadeau vient nous présenter. Bonjour, M. Nadeau.
Bonjour.
Bonjour. Un reportage en deux volets suivra sur la quête d'autonomie vue d'ailleurs. En deuxième moitié d'émission, une entrevue avec M. Denis Monnière, biographe de Ludger Duvernay, fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste, pour nous situer dans l'histoire. Il est déjà dans nos studios, mais pas devant cette table. Alors voilà, c'est parti pour cette nouvelle émission. Maxime Laporte, président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Bienvenue à cette nouvelle collaboration avec CIBL.
Merci, c'est vraiment formidable et merci à CIBL.
Oui, vous êtes en poste depuis peu. Peut-être que des gens ne vous connaissent pas tous encore. Ça va permettre de le faire un peu plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre la tête de la Société Saint-Jean-Baptiste, outre évidemment vos convictions nationalistes, on s'en doute bien?
Eh bien, j'étais déjà attiré par tout ce bagage historique extraordinaire de cette institution, ce ministère du combat citoyen qui a été fondé en 1834 par les Patriotes et par Ludger Duvernay. Mm-hmm. Toutes les réalisations de la SSJB au fil du temps, les institutions qu'elle a elle-même initiées, la Chambre de commerce de Montréal, l'IHCC, le Monument national, la Société nationale de fiducie, évidemment la Fête nationale du Québec. Mm-hmm. Alors d'une part, j'étais attiré par tout ce bagage. Et également, puisque la SSJB est encore très vigoureuse, et je pense que c'est même un euphémisme, mm-hmm. en voyant toute cette effervescence qui se passe autour de la maison du Ludger Duvernay au 82 Richard Bourque-Ouest, ce foyer des patriotes des temps modernes, et en prenant part aux activités de défense de la langue française, de promotion de l'indépendance, de l'histoire, en voyant, comme je disais, cette effervescence citoyenne, culturelle, intellectuelle qui se passe là, eh bien, pour moi, en fait, la SSJB, et ça s'est confirmé dans mon esprit, la SSJB est au cœur du mouvement citoyen, au cœur de la nation québécoise, et c'est essentiellement la raison pour laquelle je suis là.
Oui, et bien sûr, vous aviez fait du travail communautaire, vous étiez déjà un citoyen engagé.
Oui, oui, tout à fait. Je suis avocat de formation, mm-hmm. je complétais une maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. J'ai été impliqué effectivement dans différents organismes communautaires auprès des personnes âgées, auprès des personnes à mobilité réduite, des gens qui souffrent de problématiques de santé mentale, notamment dans le quartier Côte-des-Neiges. Mais aussi très tôt, je me suis impliqué, puisque je suis indépendant, je ne le cacherai pas, on a un mandat indépendantiste aussi à la SSJB. Je me suis impliqué dans ce mouvement. J'étais président du mouvement des étudiants souverainistes de l'Université de Montréal. Et donc, très tôt, comme je le disais, il y avait cette permanence au 82 rue Sherbrooke-Ouest qui permettait de rencontrer des gens très intéressants, ne serait-ce que d'imprimer des affiches. Donc, c'est là que j'ai réalisé l'importance de la SSJB. Donc, ça faisait le lien. C'était un lien naturel, finalement, qui s'est passé dans mon esprit entre mon implication dans la société et, en ce sens, mon implication à la SSJB.
Oui, parfait. Denis Trudel, comédien bien connu, que j'avais omis de présenter en
c'est
intro.
C'est pas grave, c'est pas grave.
Vous étiez pourtant bien visible autour de cette table. Il se joint donc maintenant à cette conversation parce que, Maxime Laporte, on veut en savoir plus sur ce qui occupe la Société Saint-Jean-Baptiste ces jours-ci. Il y a un projet particulièrement important que vous lancez, en fait, cette campagne citoyenne. J'aimerais que vous puissiez m'en parler un peu plus, l'un ou l'autre.
Oui, bon, en fait, c'est une campagne de porte à porte, en fait, qu'on appelle l'opération Bélier. On a décidé de prendre le taureau par les cornes, si on peut.
Ou le bélier par les cornes.
On continue dans la métaphore animale, c'est bon.
C'est-à-dire de dire que, bon, et on ne se cachera pas, là, le mouvement indépendantiste, après le 7 avril, est dans une passe un peu qui peut sembler morose.
Oui.
Et on s'est dit, bon, il faut retourner à la base un peu, il faut reprendre le bâton du pèlerin, il faut aller y aller, il faut faire des assemblées de cuisine, convaincre les gens.
À l'image de ce qu'est la société Saint-Jean-Baptiste.
On a le temps, il n'y a pas d'échéance référendaire demain matin. On a le temps de recommencer, de dire, écoutez, l'argumentaire existe, les raisons pour faire l'indépendance sont un peu les mêmes, mais il y en a d'autres nouvelles. On va aller voir les jeunes, surtout. Parce que des fois, on a l'impression que les jeunes sont au courant de toutes les raisons pour quoi on devrait faire l'indépendance, mais il faut se rappeler que ça fait déjà 20 ans, le référendum, puis pas des jeunes, même qu'on a vu dans la rue en 2012, mm-hmm. étaient très politisés par rapport à tout ce qui concerne l'accès à l'enseignement, mais peut-être pas tant que ça par rapport à l'indépendance. Puis des fois, on prend pour acquis que tout le monde les connaît, les raisons, mais c'est peut-être pas si vrai que ça. Donc, allez voir les jeunes, allez voir les gens, porte à porte, tranquillement, on a du temps. Donc, on fait ça à tous les mercredis déjà depuis un an, mais là, dimanche, l'opération part de façon nationale. Si on veut voir des gens en Abitibi, des gens dans le bas du fleuve, des gens en Outaouais qui vont faire du porte-à-porte. Il y a une journée nationale de porte-à-porte pour lancer cette opération Bélier-là.
OK. Qui culmine par un spectacle que vous avez le bonheur de mettre en scène?
Oui. Bien, écoutez, on a invité des gens qui sont connus pour leur engagement politique, les Locolocas, Alexandre Béliard, à venir participer à ce spectacle-là. Ce qui va être amusant aussi de ce spectacle-là, c'est qu'on va voir les gens en action. C'est-à-dire faire du porte-à-porte. On va aussi aller se promener dans les régions. On a des reportages des gens qui sont partout à Amos, à Rimouski, qui vont venir nous parler. Il va y avoir un écran géant. On va pouvoir les voir en action à travers tout le Québec pour montrer que c'est une opération vraiment vaste, que tout le monde embarqué, que tout le Québec est derrière ça. Et il va y avoir de la musique. Ça va être une soirée de fête, en fait, pour fêter le relancement, peut-être.
Parfait.
Et l'idée, bien sûr, à travers cette opération-là, c'est de relier à la question nationale, des enjeux réels que vivent les citoyens dans chaque région. Bien sûr, on fait grand cas ces temps-ci avec raison des oléoducs, hein, du transport pétrolier par bateau, par train et par oléoduc. Il y a toute cette guerre aussi dans laquelle le Canada s'est engagé. Aujourd'hui on semble avoir des conséquences. Alors, je regarde, mais ça a évidemment des liens très concrets avec la question nationale, puisque Québec n'a pas les moyens de décider par lui-même de ce genre d'affaires-là.
Ouais.
Alors, puis aussi, c'est de se parler de citoyens à citoyens. On n'est pas des politiciens, on est des citoyens engagés. Je pense que les gens apprécient ça.
Exact. Et justement, pour faire le lien avec ce qu'on va présenter un peu plus tard dans l'émission, on sait que vous avez été puisé d'inspiration dans vos récents voyages en Europe, n'est-ce pas, Maxime Laporte?
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est bien de dire, c'est que, la SSJB... non seulement elle est très active au Québec, mais elle s'internationalise de plus en plus. On a des liens avec plusieurs consulats, beaucoup de liens avec Haïti, avec l'ensemble de la francophonie. Et aussi, nous inspirons des mouvements d'émancipation nationale à travers le monde. Alors, je me suis rendu à Barcelone au début du mois de septembre. Il y avait une manifestation monstre le 11 septembre, Fête nationale des Catalans à Barcelone. 1,8 million de gens qui étaient dans la rue pour réclamer l'indépendance, pour réclamer une consultation populaire sur l'indépendance. C'est un mouvement démocratique. J'étais aussi présent à Édimbourg lors du référendum écossais. Donc, ça montre finalement que cette idée d'indépendance, loin d'être une idée ringarde ou dépassée, comme par exemple Justin Trudeau peut le dire, c'est bien le contraire. Ce qui est certainement plus dépassé, c'est les États-empires. Et de plus en plus, il y a des peuples qui déclarent leur indépendance. Donc, l'indépendance apparaît comme une idée moderne, humaniste et universelle.
Oui. Nous y reviendrons d'ailleurs, je le mentionnais, dans cette émission, sous forme d'un reportage en deux volets qui va se pencher à la fois sur la Catalogne et l'Écosse, mais aussi ouvrir sur la Kabylie qui présente un modèle tout à fait différent de quête d'autonomie. Alors, je rappelle que le spectacle dont M. Denis Trudel, comédien-metteur en scène, c'est ce dimanche au National.
Oui.
Alors, 26 octobre. On enchaîne maintenant avec Jean-François Nadeau, qui est présent à cette table pour nous aider à nous pencher un peu plus sur les enjeux de ces quêtes d'autonomie-là, des soubresauts et des écueils connus hier et aujourd'hui, bien sûr. Alors, merci beaucoup, M. Nadeau, d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, je vous présente, est-ce nécessaire, comme journaliste, historien, directeur adjoint du quotidien Le Devoir, vous avez écrit assez souvent et enfin dans un ouvrage paru récemment encore. Et on vient de voir passer la date du 16 octobre qui nous rappelle que c'est à ce moment qu'avait été promulguée la loi sur les mesures de guerre. Je sais pas, le terme est dans l'air un peu, mais différemment. Il est pertinent de rappeler que à cette époque, c'était quand même un geste extrême à l'endroit d'un petit groupe révolutionnaire.
Oui, ce qui est particulier avec la crise d'octobre, enfin, de mon point de vue, en tout cas, c'est que depuis plusieurs années, on a tendance à le voir en vase clos beaucoup oui. au Québec. Hein. Ce qu'on remarque, c'est on en sait toujours davantage sur des objets de plus en plus petits. Y avait-il tel policier étant le cousin de l'autre à tel endroit, à tel moment, qui était le beau-frère de la sœur? Il y a un enthousiasme dans la petitesse là, et dans le petit, surtout, qui parfois se traduit en petitesse aussi, à cet égard-là, qui m'apparaît un peu étrange. Moi, ce qui m'a toujours beaucoup intéressé avec la crise d'octobre, c'est moins l'infini détail de tout ça, parce que vous savez, à partir de 1963, quand le Front de libération du Québec est lancé par des gens qui sont très, très différents. Hein. C'est des cellules qui sont composites d'éléments dont les idées sont vraisemblablement plus variées qu'il n'y paraît avec le regard du temps. Au fond, c'est des gens qui trouvent que les avancées de ce qui est à l'époque, surtout des groupes de pression indépendantistes, ne sont pas assez rapides.
Oui.
Plusieurs ont milité au sein du Rassemblement pour l'indépendance nationale, qui a été fondé en septembre 1960. Et là, en 1963, trois ans plus tard, ils trouvent que, franchement, ça tarde. Hein? Alors, 50 ans ou 60 ans plus tard, c'est toujours au même point, ça tarde.
Oui.
Et essentiellement, donc, c'est des gens qui veulent accélérer. Mais ils ne fonctionnent pas dans le vide, ces gens-là. C'est-à-dire que sur la scène internationale, il y a déjà beaucoup de choses qui ressemblent à ça partout, notamment en Afrique du Nord. Il y a quelqu'un comme André Laurendeau, qui est l'éditorialiste du Devoir à ce moment-là, qui va dire « Le Québec n'est pas l'Afrique du Nord ». Il suffit qu'il dise ça pour que quelques jours après, pour la première fois, il y a des bombes qui éclatent. Mais on le voit aussi, on a l'impression ici d'un élément absolument extraordinaire où en octobre 70, il y a des arrestations. Il y a 500 arrestations qui se font de façon pour le moins disgracieuse sous le couvert de la loi des mesures de guerre. Où on pourra arguer que ce qui se passe, au fond, c'est qu'on met en prison des opposants politiques sous le couvert d'une mesure commode pour réprimer à coup de canon une mouche, en fait, qui bourdonne un peu autour de l'appareil politique. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'à la même époque, à partir de 1969, il y a beaucoup d'événements qui sont pareils à travers le monde.
Oui.
En Argentine, à Porto Rico, en République dominicaine, au Guatemala, en Uruguay, au Brésil, dans les semaines, voire dans les mois qui précède, on a aussi enlevé des diplomates ou du personnel politique lié soit aux États-Unis ou à d'autres puissances. Il y a un ambassadeur du Japon qui va être enlevé au Brésil. Et dans tous les cas, enfin dans plusieurs cas, les gains politiques pour ces groupes-là ont été plutôt intéressants.
Oui.
Donc, c'est intéressant de resituer ça dans un contexte plus global. Et c'est évidemment un peu particulier de parler de ça aujourd'hui, alors qu'à Ottawa, se produit donc un événement dont on ne connaît pas encore au moment où on se parle les détails.
Oui.
Mais tout ça est toujours réinterprété avec le temps. Hein. L'histoire, c'est toujours à réexaminer parce que le temps présent nous fait poser des questions à son sujet qui varient au fil du temps.
Oui. Ben en fait, je voulais vous amener un peu, justement, vous le mentionniez avec ce tour d'horizon d'autres événements ailleurs et d'autres époques. Il y avait quand même une manière d'encadrer les groupes révolutionnaires qui était fort différente de la réponse qu'a choisie le gouvernement du Canada à l'époque en promulguant les lois des mesures de guerre. Ça, vous en faites état dans votre ouvrage, que ça n'a pas suscité ce genre de réaction-là, en fait.
Ben, c'est sûr qu'en Irlande, par exemple, on voit aujourd'hui, c'était nettement plus radical comme façon de réprimer, disons, une action politique du même type. Mais au fil du temps, à travers l'histoire, on a toujours l'impression donc que des mouvements plus radicaux de ce type-là sont particuliers, alors qu'on les trouve sans cesse à travers le temps. Au 19e siècle, il y a quand même une suite d'attentats à la bombe, notamment, qui se produisent en Europe, auprès des royautés. Notamment, les royautés sont sciées par le sang. Vous savez, le roi George, qui est le roi de l'Empire britannique pendant la Première Guerre mondiale, tous ses cousins et petits-cousins sont ceux contre qui il va se battre à la Première Guerre mondiale. Mais ça dure depuis longtemps, ça. Alors, il y a vraiment des avancées à la fin du 19e siècle pour lutter notamment contre ce type de pouvoir. Il y a une suite d'attentats de toutes sortes à cette époque-là aussi qui existent. Donc, à la lumière de ce qu'on vit aujourd'hui comme paranoïa à l'égard de formes de ce qu'on peut penser être ou ressembler à du terrorisme, c'est sûr que l'expérience de l'histoire peut nous apprendre passablement de choses sur la façon dont les États ont géré ça, et aussi sur la façon dont on peut prendre la mesure de ces gestes-là. C'est sûr aujourd'hui que quand on voit des images absolument terrifiantes à la télévision de journalistes qui sont égorgés en direct par des groupes qui sont... Bon, c'est effrayant. Ensuite, évidemment, on a les entrevues avec la mère de ce personnage qui a été tué. C'est bien sûr terrible, mais on n'a jamais d'entrevue, bien sûr, avec les parents ou les familles des 5000 personnes qui sont tuées par des drones au cours des derniers mois. C'est-à-dire que de part et d'autre, la violence ou les rapports conflictuels armés ou plus directs conduisent à des perspectives qui peuvent varier. Donc, le travail de l'histoire ou de l'amateur de l'histoire ou de quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, c'est d'essayer d'entrer là-dedans pour prendre les choses sous différents angles, de sorte qu'on puisse comprendre un peu mieux la nature humaine dans les rapports politiques qu'ils entretiennent avec des conflits qui s'enveniment.
Oui. Par contre, quand vous parlez des fameux événements dont, bon, avec toute l'histoire de radicalisation islamique, c'est quand même pas, pour moi, assimilable tant que ça à des quêtes d'autonomie des peuples dans la mesure où on va parler de l'Écosse, la Catalogne, la Kabylie. Ça, c'est quand même un peu une guerre ouverte envers le modèle que l'Occident propose.
Ah oui, bien sûr, faire toutes sortes de variantes, variables, puis celles qui vous arrangent, puis celles qui vous arrangent pas aussi. Mais vous êtes bien, c'est bien certain aussi qu'il y a des gens qui vont les faire, ces rapports-là, que vous voulez pas faire, vous. Alors, c'est pas nécessaire de se mettre la tête dans le sable pour penser qu'il y a des gens qui vont les faire. Donc, c'est d'autant plus intéressant d'essayer de comprendre comment tout ça fonctionne, de façon à tirer des différences, mais aussi à voir aussi où peut y avoir des points en commun.
Oui.
Les humains sont pas si différents les uns des autres.
Oui, même s'ils portent effectivement ou leur message de façon différente.
Oui, c'est ça.
Disons ça comme ça. Bien, on aurait aimé pouvoir vous garder encore plus longtemps à nous expliquer le modèle de la crise d'octobre. mais par contre, pour les gens qui auraient envie d'en savoir un peu plus, bien, entre autres, je les invite à se procurer l'ouvrage. Je fais vraiment votre promo, là. C'est pas arrangé avec vous. Un peu de sang avant la guerre que vous avez publié, qui a été édité chez Lux, qui est sorti assez récemment.
Oui, il y a juste un texte qui concerne la crise d'octobre. Mais il y a bien question d'autre chose.
Non, c'est ça. Bien, effectivement, et pourquoi je le mentionne, c'est pas juste pour vous donner un remerciement sous forme de promotion, c'est parce que à travers, cette question de la crise d'octobre ne fait partie que d'un segment, mais plus largement, vous vous penchez justement sur cet appétit pour la guerre qui prend toutes sortes de formes, qui s'incarne de toutes sortes de façons, que vous analysez de diverses façons dans cet ouvrage.
Oui, c'est un peu ça, entre autres choses.
Alors, c'est pour ça.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, M. Nadeau. Et voilà, je laisse mes invités quitter doucement le studio tout en ayant à peine eu le temps de les saluer. C'est quand même un sujet qui nous permet d'aller plus profondément dans tout ça. Alors, ce serait le moment de vous présenter le reportage. Le reportage qu'Émilie Lamine nous a préparé, on a fait un peu le tour. Déjà, on a préparé un peu le terrain. L'indépendance, la souveraineté, l'autonomie, des termes qui alimentent des questions d'identité de certaines sociétés actuelles. C'est le cas au Québec, on l'a vu de différentes façons, pardon. Mais c'est aussi le cas de l'Écosse, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois, et de la Catalogne. Notre journaliste Émilie Lamine s'est intéressée aux enjeux de ces quêtes d'émancipation à travers leurs liens et leurs brisures. Le tout à travers le regard québécois. On l'entend. On l'écoute à l'instant.
La Catalogne est une communauté autonome et région historique d'Espagne. défini comme réalité nationale dans son statut d'autonomie depuis juin 2006. Sa capitale est Barcelone et sa langue officielle, le catalan.
La Catalogne, c'est aussi une quête de l'indépendance et une bataille avec le gouvernement espagnol. Aujourd'hui, ce combat est en pleine mutation. Le gouvernement a opté pour une consultation par référendum à partir d'une loi propre à la Catalogne et d'un décret du gouvernement.
Loi et décret qui sont à présent contestés par le gouvernement espagnol au tribunal.
Présentement, le gouvernement catalan cherche une voie parallèle de consultation citoyenne et publique pour contourner l'interdiction du gouvernement espagnol.
Piou. C'est compliqué tout ça. Alors, Agustini Nicolau Coll, vice-président du Cercle culturel catalan du Québec, essaye de nous expliquer son point de vue sur pourquoi l'Espagne refuse d'entendre l'appel du peuple catalan.
L'Espagne en tant qu'État s'est construite précisément par la négation de la diversité. Alors reconnaître la diversité, ça constitue se repenser comme État espagnol. Alors nous, on a tout essayé. On a fait des offres à niveau des conseils économiques très importants parce que la Catalogne souffre d'un déficit fiscal avec l'Espagne de l'ordre de 15 à 20 milliards d'euros annuellement depuis 25 ans. Mais il y a toujours un fin de non-recevoir.
Selon Agustí Nicolau Coll, la Catalogne a besoin de l'indépendance pour différentes raisons, mais ça n'est pas une fin en soi, c'est seulement un moyen d'accéder de nouveau à leurs droits fondamentaux.
En Catalogne, plus que l'indépendance dans le sens de mettre des frontières, ce qu'on veut, c'est notre souveraineté. Décider chez nous, c'est que ici, on doit céder une partie de la souveraineté. On la cède, nous, c'est pas qu'on nous la vole. Dans ce sens-là, malheureusement, la seule façon actuellement en Europe au XXIe siècle, c'est la constitution du nouvel État. Alors oui, sur l'indépendance, mais pas en tant que finalité, mais en tant que moyen pour que cette souveraineté du peuple puisse avoir lieu. Par exemple, ce qui n'est pas pensable, c'est qu'actuellement, quand les députés catalans sont à Madrid, on les interdit de parler en catalan. L'Espagne ne veut pas.
Ce qui est important à observer en Catalogne, c'est que tout le mouvement se traduit de plus en plus comme une mouvance citoyenne et non politique. Et pour illustrer cette quête populaire, le Québécois Joan Beauclair est parti sur place le 11 septembre dernier, jour de fête nationale de la Catalogne, avec son projet « Faire lever le vent », une sorte de projet solidaire du peuple québécois aux Catalans.
À cause de la situation actuelle, depuis les trois dernières années, le milieu citoyen s'organise pour faire des manifestations monstres, des trucs gigantesques, super positifs, familiales, mais qui sont toujours grandes de par leur nombre de participants. Donc 1,5 million de personnes dans les rues de Barcelone en 2012. En 2013, une chaîne humaine de 400 km avec 1,6 million de participants. Et en 2014, c'était 1,8 million d'indépendantistes qui étaient à Barcelone. Donc nous, on voulait mêler la voix du Québec, la voix citoyenne dans ça, comme une forme d'appui, tout simplement. En catalan, on leur a dit « El Québec est amb vosaltres », ça veut dire « Le Québec est avec vous ».
On se doute que cette solidarité n'est pas anodine au vu de la situation actuelle au Québec et du questionnement sur la souveraineté. Alors pour avoir un impact plus important, certains Québécois et Québécoises ont cherché à créer une sorte d'entité politico-citoyenne. Josie-Anne Huard est coordinatrice de l'ANC Québec, soit l'Assemblée nationale catalane au Québec. Avec son assemblée, elle souhaite que les Québécois apprennent à prendre pour exemple le mouvement catalan à l'approche d'une nouvelle consultation le 9 novembre prochain en Catalogne.
C'est un mouvement qui part de la base. C'est une façon de faire qu'on doit absolument importer ici au Québec, parce que tant qu'on laisse ça entre les mains des partis politiques, il n'y a rien qui va se passer. Puis, juste de voir que le Parti québécois a décidé qu'il n'envoyait pas de délégation en Catalogne, je trouve que c'est une erreur monumentale. Ils ont tellement à apprendre de la façon dont les Catalans sont capables de se rassembler, de s'organiser, de faire pression sur les partis politiques. En fait, c'est ça. C'est entre autres l'ANC qui a réussi à faire pression sur les partis politiques pour qu'ils décident de cette consultation-là pour le 9 novembre.
Bon, alors oui, le mouvement indépendantiste catalan peut être vu comme un exemple de mouvance pour les citoyens québécois, mais on ne peut évidemment pas parler de quête d'autonomie sans évoquer le cas écossais. L'Écosse a beaucoup marqué les médias québécois avec le référendum de septembre dernier où le non l'a emporté à 55%. Duane Boclair, toujours grâce à son projet Lever le vent, était encore une fois sur place pour le vote du référendum. Pour lui, la surprise était totale quand il a découvert une réalité qu'il n'aurait peut-être pas envisagée s'il était resté au Québec. Duane Boclair a vu autre chose.
Dans leur cas, c'est très différent comme cheminement. Mais moi, en allant là-bas, ce que j'ai réalisé, c'est qu'ils ont absolument pas perdu. En fait, ils ont complètement gagné. Pourquoi? C'est que 45% qui était le résultat pour le oui, ben en fait, c'est une avancée spectaculaire. Ils ont permis la discussion, les gens ont commencé une réflexion. Et donc, ils ont avancé l'appui à leur cause. Ils se sont négociés des promesses de la part du Royaume-Uni après la petite déception de ne pas avoir tout simplement facilement gagné le 18 septembre. Et ben là, les Écossais, 24 heures après, ils étaient en train de retrousser leurs manches pour dire « Bon, l'objectif, c'est pas de gagner un référendum. L'objectif, c'est de se donner un pays. »
Évidemment, il serait trop simpliste de croire que les enjeux de chacune de ces communautés sont les mêmes et que la bataille se jouera pour chacun de manière équivalente. Non. Les gouvernements, les revendications et le contexte ne sont pas les mêmes. Mais une chose est sûre, si un peuple souhaite plus d'autonomie et d'indépendance, ce n'est pas par son gouvernement qui va l'obtenir, mais plutôt par un éveil citoyen et un débat. Après, le choix d'un oui ou d'un non reste une autre histoire.
Riche matière à réflexion, on le voit. J'ai ensuite, en deuxième portion, là, toujours préparé par Émilie Lamine, on a voulu aller dans une toute autre direction avec la quête invisible de la Kabylie. Alors, comme on l'avait entendu dans ce premier reportage, c'est toujours difficile de comparer et de créer des liens entre les différents enjeux d'autonomie d'un peuple. Pour l'Écosse et la Catalogne, on l'a vu, les deux sociétés étaient en mouvance grâce à des actions citoyennes populaires. Mais un autre cas, beaucoup moins médiatisé, en tout cas c'est le cas ici au Québec, et moins connu du grand public, nous intéressait aussi, c'est celui de la Kabylie. Émilie Lamine a donc proposé pour nous, préparé pour nous plutôt, le témoignage de l'écrivain et éditeur kabyle Karim Akouche pour faire un petit état des lieux de la situation en Algérie.
La Kabylie se trouve à l'est d'Alger, la capitale algérienne. C'est une région montagneuse, il y a également la mer, la Méditerranée. C'est un peuple qui appartient à une grande famille de peuples, les Berbères, donc qui sont un peu partout en Afrique du Nord, au Maroc, en Libye, en Tunisie, même en Égypte, dans les oasis de Siwa. Il y a également les Berbères qui sont dans le désert, comme les Touaregs. Donc c'est une grande famille qui vit en ce moment sous le colonialisme arabo-islamique. Donc là, on est en train de chercher notre liberté. Il y a toutes sortes de manières de défendre notre identité. Il y a des gens qui demandent la décentralisation, des gens qui demandent l'autonomie et d'autres qui demandent l'indépendance. Donc vraiment, le débat est très actuel. Il y a eu d'ailleurs en 2001 ce qu'on appelle le printemps noir. Le printemps noir, des autorités algériennes, des policiers, des gendarmes ont assassiné des jeunes innocents parce qu'ils revendiquaient leur identité. Donc il y a un problème. Donc, après on est passé des étapes. Hein. Ça a commencé depuis l'indépendance. Notre identité est confisquée, notre langue est confisquée. Il y a eu le printemps berbère en les années 80. Après il y a eu l'assassinat de Matou Blounas, un très grand chanteur qui revendiquait sa langue et sa culture, qui a été assassiné. Après, il y a eu le boycott scolaire. Il ne faut pas oublier que des enfants, des collégiens, des universitaires, des étudiants ont boycotté toute une année pour revendiquer leur identité. Bouteflika, maintenant, l'actuel président, c'est un président mourant, agonisant, qui nous gouverne. Donc, il y a quand même l'abus. On a abusé du peuple et notamment des Kabylies, des Berbères en général. C'est vrai, on m'a inculqué des valeurs que j'ai récusées. L'école algérienne est arabe, ma pièce d'identité est arabe. Et d'ailleurs, j'ai du mal à la regarder parce que profondément, cette carte d'identité ne me représente pas. Moi, je suis kabyle et la langue de ma mère n'est pas inscrite sur sa carte d'identité. Donc il y a quelque chose qui tient pas la route. Donc il y a un problème identitaire très sérieux. Si ça continue comme ça, on vivrait un scénario à la rwandaise. Les autorités algériennes ont peur. Après, il y a des gens qui font un travail d'internationalisation de la cause dans le monde entier, notamment en France, aux États-Unis. Et en même temps, sur le terrain, il y a des gens qui sont très actifs. Après, moi, sincèrement, je respecte le choix des gens. Moi, il faut passer par le suffrage universel. Si les Kabyles ne sont pas prêts maintenant, ils le sont après, ou je ne sais pas. Mais c'est très important de donner la voix au chapitre, au peuple. Quand il y a deux peuples qui vivent ensemble et les deux peuples sont en concurrence, les autorités en place privilégient un peuple à un autre, il y a un problème.
Cette culture kabyle qu'on gagnerait à mieux connaître. Merci Émilie Lamine d'avoir préparé ces deux reportages, ou enfin reportages et témoignages. Il est déjà 13h29. Presque 13h30, nous allons passer aux publicités, mais au retour, nous accueillons M. Denis Monnière, qui va venir placer toute l'histoire autour de l'UG Duvernay et la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste. Nous sommes de retour et accueillons maintenant M. Denis Monnière, politologue et universitaire bien connu. Bonjour, M. Monnière.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation à venir nous accorder une longue entrevue.
Ah, c'est avec plaisir que je viens discuter de l'histoire avec vous.
Oui, et autour du personnage de l'UG Duvernay. Mais avant d'arriver à l'UG Duvernay, d'abord, ce serait intéressant de vous présenter un peu plus votre parcours à vous. Qu'est-ce qui vous a amené à rédiger un tel ouvrage?
Bien, vous savez, c'est un des 44 ouvrages que j'ai publiés jusqu'à présent. C'est peut-être pas terminé.
Oui.
Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'évolution des idéologies au Québec. Et j'ai travaillé sur l'ensemble des discours, le discours idéologique global. Et j'ai publié un ouvrage qui s'appelait « Le développement des idéologies ». Et par la suite, je me suis dit, mais comment les individus incarnent ces grandes idées, ces grandes valeurs, ces grands principes? Et je me suis donc penché sur certains intellectuels. J'ai fait une biographie d'André Laurendeau, mm-hmm. qui est quand même une figure de proue du monde intellectuel québécois.
Oui.
Et un jour, la Société Saint-Jean-Baptiste m'a dit, mais puisque vous avez fait un si bon livre sur Laurendeau, pourquoi pas une biographie de l'UG Duvernay, notre fondateur? Mm-hmm. Ah, ben j'ai dit, quelle bonne idée! Et donc, je me suis lancé dans la recherche, parce que M. Nadeau, tout à l'heure, disait que l'histoire est toujours réinterprétée, oui, mais c'est parce que, aussi, on découvre de nouvelles archives, on a de nouvelles sources, et donc, on a des informations supplémentaires.
Ouais.
Donc, c'est un peu le contexte qui m'a amené à travailler sur l'UG Duvernay comme producteur d'idées, comme journaliste, parce que Duvernay, essentiellement, c'est un homme de médias, même s'il a eu une carrière politique, mais l'ensemble de son œuvre est journalistique.
Oui. Bien voilà, c'est donc intéressant d'ouvrir cette nouvelle série d'émissions-là en se penchant plus longuement sur qui il était, quel était son cheminement. Si on avait à présenter le personnage au-delà de ce que vous venez de placer comme... pourquoi l'UG Duvernay a connu un tel parcours? Qu'est-ce qui préparait à tout ça? Et on aimerait couvrir toute la période avant l'exil, en fait.
Oui, globalement, vous savez, il faut rappeler à nos auditeurs que nous sommes à l'époque, dans la première moitié du 19e siècle. Le Québec s'appelle le Bas-Canada. Mm-hmm. C'est une colonie de la Grande-Bretagne. Le régime politique est un régime autoritaire, militariste. Il y a une assemblée élue, mais cette assemblée n'a pas véritablement de pouvoir. Elle ne contrôle pas les impôts, ne contrôle pas les nominations dans la fonction publique. Donc, les jeunes Canadiens, comme on les appelait à l'époque, n'ont pas beaucoup de débouchés. Et ils vont donc se concentrer sur ce qu'on appelle les professions libérales, c'est-à-dire médecins, avocats, journalistes.
Oui.
Et le monde du commerce, le monde des affaires, leur est à peu près fermé. Donc, Duvernay va, lui, se lancer dans le journalisme. Il va fonder un journal. Il en a fondé plusieurs, mais disons, le plus important, c'est le journal La Minerve. Mm-hmm. Et le journal La Minerve, c'est un peu l'équivalent de ce qu'est la presse aujourd'hui, hein, s'il faut oui. se remettre dans les, à l'époque. Oui.
C'est avec un journal.
Oui, trop d'autres enjeux. Oui, non, mais c'est parce oui. que c'est mais un journal qui a une grande journal, diffusion et c'est un journal qui représente une vision du monde, une idéologie. C'est l'idéologie patriotique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'idéologie patriotique? Ça veut dire qu'il y a un parti qui s'appelle le Parti patriote, qui veut avoir l'indépendance du Bas-Canada, qui veut avoir une société laïque, qui veut avoir une république et qui veut établir ce qu'on appelle, on a appelé le gouvernement responsable, c'est-à-dire que les élus du peuple sont ceux qui prennent les décisions. On se gouverne nous-mêmes. Alors, oui. C'est ça l'essentiel du programme patriotique. Alors, la Minerve va devenir le journal qui va exprimer ses idées et mm-hmm. c'est Luigi Duvernay qui en est le fondateur, le propriétaire et souvent aussi le principal journaliste. Donc, c'est un organe qui diffuse la pensée patriotique au Bas-Canada. Bon, évidemment, le tirage n'est pas aussi grand que celui de la presse, mais à l'époque, les journaux étaient lus collectivement. Hein? Oui. Les gens se réunissaient au magasin général et ils se lisaient le journal entre eux. Donc, ça avait une très, très grande oui. influence.
Enfin, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, pas tout le monde savait lire. Déjà.
Aussi, d'accord. Oui. Donc, oui. Mais on pouvait oui. suivre l'actualité oui. en écoutant ceux qui lisaient le journal. Oui. Alors, c'est un peu la télévision d'aujourd'hui. Quoi.
En effet, oui, le média de l'époque, c'est
donc,
ça.
Donc, Duvernay va accompagner le mouvement patriotique et dans les années 30, alors là, je veux revenir aussi sur ce que Nadeau disait tout à
oui,
l'heure.
Oui, oui, allez-y.
Le Québec n'est pas isolé, là. Il ne faut pas s'imaginer mm-hmm. qu'on vit en vase clos.
En
les influences étrangères nous parviennent par les journaux, précisément. Et les patriotes se rendent compte qu'il y a des mouvements de libération des peuples en Belgique, qui a réussi la Révolution belge en 1830. En Grèce, en Pologne, les peuples veulent se libérer, veulent prendre leur indépendance.
Mm-hmm.
Et c'est aussi vrai en Amérique latine, ça a été vrai un peu plus tôt, dans les années 20. Donc, tous ces courants de pensée pénètrent la société du Bas-Canada et Duvernay est un peu au carrefour parce que c'est lui qui va chercher l'information et qui la diffuse. Et donc, dans les années 30, le mouvement des patriotes devient un peu plus radical, c'est-à-dire qu'il commence à contester l'appartenance à l'Empire britannique.
Mm-hmm.
Donc là, on commence à réclamer la rupture du lien avec la Grande-Bretagne. Parce que le système est bloqué. Les patriotes perçoivent des impôts, mais ils ne peuvent pas l'utiliser. Ils ne peuvent pas utiliser cet argent pour le développement collectif. Et donc, des années 30 sont très agitées à Montréal. Et ça se passe tout près d'ici, là, dans notre quartier. Hein. Il y a donc des manifestations, il y a des combats entre ce qu'on appelle les Tories, les fidèles oui. à la Grande-Bretagne, oui. et les patriotes qui, eux, veulent la libération, l'émancipation de la colonie. Donc, Duvernay va canaliser toutes ses idées et il va lui-même être emprisonné, hein, mm-hmm. Parce que c'est un régime très autoritaire.
Oui.
Si on critique le gouverneur, on vous met en prison. Et donc, Duvernay va faire 3 séjours en prison. Il va aussi être élu député. En 1836, il est élu député. Et donc, 37, c'est la crise, c'est la rébellion de 37.
Oui.
Et là, Duvernay perd tout. Hein. Il perd son journal, il perd sa maison et il doit s'exiler et il se retrouve aux États-Unis. Bon, avant d'aller du côté de son exil, en 1834, mm-hmm. donc, il va, à l'imitation, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, à l'imitation des Irlandais. Et ça, c'est important que nos auditeurs comprennent bien que le nationalisme, ou moi j'appelle plutôt ça le patriotisme
oui.
de cette époque-là, ça inclut tous ceux qui habitent le Bas-Canada. Il n'y a pas de critères linguistiques ou religieux ou ethniques qui définit ceux qui sont Canadiens et ceux qui ne le sont pas.
Ouais.
Et donc, dans le mouvement des patriotes, vous retrouvez des Irlandais, vous retrouvez des Écossais. Et c'est là où l'idée de la Société Saint-Jean-Baptiste va
mm-hmm.
apparaître.
Mm-hmm.
En tout cas, l'idée de la fête nationale des Canadiens.
Oui.
C'est qu'en 1834, les Irlandais, qui eux aussi sont en conflit avec la Grande-Bretagne, les Irlandais vont à Montréal, lancer leur première fête nationale, leur premier défilé de la Saint-Patrick le 17 mm-hmm. mars. Duvernay regarde ça et dit « Hey, pourquoi on ne fait pas pareil? » Donc, lui, il va créer une société qui a pour mandat d'organiser une fête nationale. Et donc, il a choisi le 24 juin qui est toujours célébrée de nos jours. Yes. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de la première fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste, parce que cette fête nationale, elle vise à rassembler tous ceux qui croient à la démocratie, qui veulent l'indépendance du Bas-Canada. Et dans ces participants à cette fête nationale, on retrouve des Irlandais, on retrouve des Écossais, on retrouve même le maire de Montréal qui est le président d'honneur de la fête nationale patriotique de 1834. Alors, c'est ça l'origine de la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est patriotique parce que ça inclut tous ceux qui s'associent à l'idéologie patriote, tous ceux qui veulent l'indépendance, tous ceux qui veulent la démocratie et les libertés au Bas-Canada.
Oui. Et vous l'aviez bien expliqué aussi, il y a deux naissances, en fait, à cette Société Saint-Jean-Baptiste.
Oui, mais là, c'est que la rébellion et surtout l'échec de cette rébellion en 37 et 38 va interrompre l'organisation de la société. Il n'y a plus de fête nationale. Il y a la répression.
Ouais.
Les patriotes sont soit exécutés, il y en a 12 qui sont exécutés, ils sont emprisonnés, ils sont en exil, ils vont même être en exil jusqu'en Australie. Hein. Donc, c'est la désintégration d'un mouvement politique. Et donc, il y aura nécessairement une deuxième fondation au retour d'exil. Parce que là, Duvernay, lui, s'en va aux États-Unis. Il va aller au Vermont, pas tellement loin de Montréal, mais là-bas, il peut rien faire. Il n'y a pas de ressources et il ne peut pas non plus agir et influencer la société canadienne. Donc, il va rester en exil jusqu'en 1842. Et là, il va revenir progressivement, c'est-à-dire qu'il fait un petit voyage pour vérifier s'il ne sera pas emprisonné, parce qu'il risquait toujours d'être emprisonné. Il n'y avait pas eu d'amnistie des patriotes. Hein. Vous savez que l'amnistie va venir très tardivement, beaucoup plus tardivement que dans le Haut-Canada, où là, non seulement on les a amnistiés, mais on a compensé pour les dégâts qui avaient été causés, mais au Bas-Canada, ça viendra beaucoup plus tard. Donc, les patriotes sont en expectative. Et bon, Duvernay revient en 42 et Papineau, lui, ne reviendra d'exil qu'en 46, donc un peu plus tard.
Pour couvrir toute cette portion-là de retour d'exil et ce que ça a apporté comme changement, on va se laisser juste un petit espace de plage musicale pour pouvoir tout assimiler ça et on continue la conversation avec M. Monnière tout de suite après.
Si tu crois qu'un jour nos destinées seront liées, qu'au grand jeu de l'amour toi et moi on aura gagné, si tu crois que c'est écrit dans nos mains, dans le ciel, qu'au fond de toi tu te dis, je pourrai plus jamais vivre sans elle. Alors j'irai où tu voudras, je te suivrai, je suis comme ça. Si tu veux qu'on prenne le temps, de temps en temps, pas trop souvent, de s'asseoir simplement pour savoir comment je vais. Si pour toi la vie c'est un voyage, au bout duquel faut pas pleurer, qu'il faut savoir faire ses bagages, prendre des risques pour y arriver. Alors j'irai où tu voudras, je te suivrai, je suis comme ça. Mais si tu crois que tout ce qui compte, c'est de vivre à bon compte, attendre le décompte, toujours l'œil sur la montre. Si dans la cour du voisin, y a toujours plus que dans la nôtre, qu'est-ce qui te ferait du bien? C'est toujours se cacher les autres. Alors j'irai, oui, mais sans toi, je partirai, je suis pas comme ça. Oui, moi j'irai, oui, mais sans toi, je partirai, je suis pas comme ça. Et si je te fais confiance, est-ce qu'un jour tu me décevras? C'est rien gagné d'avance, on va vivre et on verra. Promets-moi de ne pas changer, de rester jeune et fou de moi. Promets-moi de m'aimer toujours, de faire ce voyage avec moi. Car moi j'irai où tu voudras, je te suivrai, je suis comme ça. Oui, moi j'irai.
Alors, il est 13h45, vous êtes toujours à l'écoute de cette toute nouvelle collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste dans le cadre de CIBL Reçoit, Entêté d'avenir. Mais pour être entêté d'avenir, il faut comprendre d'où on vient. Alors, si vous venez seulement de vous joindre à nous, nous sommes toujours en conversation avec M. Denis Monnière, politologue et universitaire bien connu. M. Monnière, on a suspendu la conversation autour de toute l'histoire de l'exil qu'a connu Luger Duvernay. Alors, je vous laisse poursuivre avec tout ce que ça change au moment, donc, cette transition-là.
Luger Duvernay revient en 1942 et il retrouve une société qui n'est plus du tout la même. D'abord, il y a une nouvelle constitution qui a été imposée par Londres, l'acte d'union. Et évidemment, dans ce cadre-là, les Canadiens français ont perdu la majorité dans les institutions politiques. Ils sont devenus minoritaires. Le français est banni de ces institutions. Et surtout, on a fusionné les cassettes, c'est-à-dire l'argent qu'avaient les patriotes, les députés, l'Assemblée législative avaient accumulé des surplus. Oui. Et le Haut-Canada, lui, avait accumulé des déficits. Donc, on a pris tout cet argent-là, on a mis tout ça ensemble, et finalement, cet argent n'a pas servi au développement du Québec. Alors, il y a aussi que les élites, les leaders politiques sont en exil, ou sont dévalorisés parce qu'il y a eu de la répression en 37-38, il y a eu du saccage. Bon, c'est une défaite militaire comme celle-là, ça laisse des traces. Donc, la société est un peu déboussolée et c'est l'Église qui vient de prendre le leadership. C'est elle qui est la seule institution qui reste. Auparavant, l'Église n'avait pas d'importance ou de grand rôle dans la société canadienne. C'était l'Assemblée législative, c'était les députés qui exerçaient le leadership. Après 40, ce n'est plus le cas. C'est l'Église qui est devenue l'autorité. C'est elle qui dirige et c'est la seule institution qui reste. Donc, Duvernay revient dans ce contexte. Il se dit, mais il faut recréer des institutions parce qu'il faut que le peuple puisse s'identifier à des leaders politiques. Et c'est à travers des institutions, comme ils peuvent moins le faire maintenant avec les députés, parce que les députés siègent dans un Parlement uni où ils sont minoritaires. Mm-hmm. On va donc créer une institution de la société civile. C'est la deuxième Saint-Jean-Baptiste.
Oui.
Maintenant, cette deuxième Saint-Jean-Baptiste, cette deuxième société qui est créée officiellement en 1843, est un peu différente de la première, parce que cette fois-ci, on définit qui peut appartenir à la société, et c'est seulement les gens d'ascendance canadienne-française. Donc, ce n'est plus les Irlandais, les Écossais, ce ne sont plus... Ce n'est pas une affiliation par idéologie, c'est une affiliation par origine ethnique.
Identitaire.
Ou origine même, origine ethnique.
Origine ethnique, oui.
Donc, à ce moment-là, ça implique une certaine forme de repli. C'est-à-dire qu'on on se replie sur l'idée que pour survivre, il va falloir serrer les coudes, être entre nous et se défendre. C'est ce qu'on appelle le nationalisme défensif. Et donc, ce qui va devenir le moteur de ce mouvement, c'est la défense de la religion, de la langue et des traditions. Ce n'est plus la conquête de l'indépendance, ce n'est plus la conquête du pouvoir politique, parce qu'on est minoritaire. Donc, et surtout qu'on vient de subir un échec traumatisant pour la société canadienne. Et donc, on voit, par exemple, des choses assez étonnantes comparativement à ce qui s'était passé 10 ans plus tôt. À la fête nationale, le 24 juin, ça commence par une messe, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Dans les banquets qu'on organise, on célèbre le roi, on célèbre le gouverneur de la colonie. Mmh. Alors là, on a eu un changement assez radical de vision, d'idéologie. C'est qu'on accepte, enfin on accepte, on n'a pas vraiment le choix, mais on accepte le nouveau régime. On accepte cette nouvelle constitution. Il faut donc faire avec. C'est ce que les leaders libéraux ou réformistes, comme on les appelait, Louis-Hippolyte Lafontaine, par exemple, ou Georges-Étienne Cartier nous disent.
Oui.
Écoutez, on n'a pas le choix. Mm. On va s'intégrer. On va se résigner. On va travailler à l'intérieur du Canada uni. On va faire alliance avec les réformistes du Haut-Canada pour essayer d'améliorer notre situation. Donc, on est dans une perspective, une politique d'arrangement, d'accommodement, puis on essaie d'avoir en retour des postes dans la fonction publique, des nominations politiques, du patronage, etc., etc. Donc, la politique québécoise, canadienne, française, après 1850, après l'échec, va devenir une politique d'accommodement, de résignation, et on ne vise plus à se diriger nous-mêmes, puisqu'on doit être dépendant. Ouais. Hein, ouais. Notre survie dépend de la bonne volonté de l'autre, c'est-à-dire le Canada anglais. Voilà le contexte dans lequel Duvernet revient et il crée cette société Saint-Jean-Baptiste qui abandonne l'objectif politique pour la survie culturelle de la nation canadienne-française. C'est donc c'est un type de nationalisme qui est beaucoup plus culturel que politique. Parce que le politique nous échappe. Ouais. Les institutions politiques nous échappent.
Ouais. Les outils ne sont plus là.
Les outils ne sont plus là parce qu'on est démographiquement et politiquement en minorité. Et c'est ce que Duvernet est obligé d'accepter à son retour. Et là, ça nous amène à parler des effets de l'échec ou les effets de la déception politique, en fait, sans que ça soit aussi grave aujourd'hui. Quand on a des référendums et qu'on les perd, évidemment, il y a des conséquences politiques. Et ces conséquences, ça ressemble un peu à ce qui s'est passé au milieu du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on fait contre mauvaise fortune bon cœur, parce qu'on essaie de s'accommoder de cette situation qu'on ne contrôle pas. Et on est dirigé par des forces extérieures, et ces forces extérieures nous imposent leur volonté, et nous, on fait avec. C'est ça un peu la situation où sont retrouvés les patriotes au retour d'exil. Et puis, c'est un peu ça qu'on nous propose aujourd'hui dans le débat politique, c'est-à-dire, bon, l'indépendance n'est pas faite, là, ça fait 40 ans qu'on tourne en rond. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien là, il y en a qui nous disent, bien, il faut se résigner, hein, c'est pas possible de faire ça. Donc, on va revenir dans le giron du fédéralisme, on va essayer de reconstruire notre position canadienne-française, c'est-à-dire accepter notre statut de minorité et faire avec le régime canadien. Et donc, aller travailler avec le NPD, travailler avec le Parti conservateur ou avec le Parti libéral.
Ouais.
Et c'est ce que certaines personnes nous proposent comme projet politique, un peu comme ce que les réformistes Louis-Hippolyte Lafontaine ont proposé en 1842, 1847, 1848. Il fallait s'intégrer au Canada. Et donc, comme on a échoué, ben on baisse les bras et on fait comme si on pouvait gagner, faire des gains à l'intérieur du régime canadien, qui est actuellement le fédéralisme.
Oui, et c'est pour ça que je vous disais, quand on préparait cette entrevue, si Ludger Duvernay était revenu d'exil maintenant, en 2014, bon, il ferait pas mal de choses qui le surprendraient dans la façon dont on vit, bien sûr, et le rôle que joue l'Église, enfin, il y aurait pas mal de différences, mais la situation dans laquelle il se retrouverait, vous me disiez...
Il serait pas tellement désorienté, non, parce que, en tout cas, sur le plan des attitudes politiques, il retrouverait sensiblement les mêmes sentiments, c'est-à-dire la résignation, la soumission à l'ordre établi, à l'ordre constitutionnel, et cette idée qu'on peut s'arranger, qu'on va avoir des accommodements, on va nous... C'est ce qu'un peu le Parti libéral du Québec envisage, faisons des arrangements administratifs. On ne règle pas le vrai problème, mais on va survivre. Et c'est l'idéologie de la survivance qui est née après l'échec de 37-38 et qui revient en force aujourd'hui, même chez certains nationalistes. Donc, ils se disent, mais là, le peuple n'en veut pas d'indépendance, donc qu'est-ce qu'on va faire?
Oui, voilà. Bien, on le voit, c'est une matière riche dans laquelle on pourrait rester encore longtemps. On le sait, c'est pas assez diffusé, cette information-là. Pour les auditeurs qui auraient envie d'en savoir plus, bien sûr, vous avez publié ce livre. L'éditeur on est toujours Québec-Amérique, et c'est toujours possible de se le procurer. Pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'acheter l'ouvrage, il existe aussi dans une forme de 2014, c'est-à-dire dématérialisé. Et c'est donc possible de comprendre un peu mieux les enjeux dans lesquels on vit.
Ceux qui veulent le lire font sur Google, Ludger Duvernay.
Sur le portail, ils vont le voir tout de suite.
Ils vont trouver tout de suite le livre qui est intégralement mis en ligne.
Oui, parfait. Merci beaucoup, beaucoup, M. Denis Monnière, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir collaboré si généreusement à l'émission. On se fait une légère transition musicale pour que je puisse revenir avec la conclusion. Et c'est ainsi que se conclut cette première émission. Vous le voyez, on a simplement un peu mis la table sur tous les enjeux dont on peut parler. Il est impossible de circonscrire en 60 minutes ce qu'on tentait de faire avec cette quête d'autonomie des peuples, surtout si notre regard se porte ailleurs, ce qui va arriver dans d'autres émissions également pour le rayonnement de la francophonie, entre autres. Mais ça vous place un peu dans ce thème de l'histoire, mais toujours relié à ce qui se passe et comment c'est incarné dans le moment présent. Alors, on remercie les invités d'aujourd'hui. Alors, Maxime Laporte, qui est encore présent en studio alors qu'il devait nous quitter, merci d'être venu à l'émission. Denis Trudel, qui a dû nous quitter malheureusement. Jean-François Nadeau, vous le comprenez, dans les actualités qu'on vit et retourner au devoir, c'est certain. Monsieur Denis Monnière, que je remercie encore une fois pour cette généreuse entrevue. Merci à Émilie Lamine, qui a préparé vraiment un portrait intéressant en deux volets, et à la mise en onde et au choix musical, j'étais appuyée par Carlo Bellomo, que je remercie beaucoup. À l'animation, réalisation de cette première émission, c'était Guylaine Lheureux. Je vous rappelle que cette émission a été préparée en collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste dans le cadre de CIBL Reçoit. Et donc, la prochaine émission, puisque c'est une mensuelle, ce sera le 26 novembre. Cette émission, et nous sommes encore à en définir les segments pour vous. On prépare tout ça et on pourra vous revenir avec plus de détails dans les promotions qui vont suivre. Alors d'ici là, je vous souhaite de continuer à vous informer sur l'histoire, approfondir un peu les notions qu'on a commencé à ouvrir aujourd'hui, et on vous retrouve à la prochaine émission. Donc c'est un rendez-vous le 26 novembre, toujours sur les ondes de CIBL au 101.5 ou en balado diffusion, bien sûr.